Je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible à Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit : C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Amen.
Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Je me permettrai de vous donner un conseil ce matin : ne prenez pas la route. Et n'imitez pas ceux qui ne sont pas là ce matin, qui sont probablement partis, peut-être aujourd'hui, sur les routes du sud de la France, ou bien de l'ouest, ou bien d'ailleurs, et qui se retrouveront, à n'y pas manquer, dans les 900 et quelques kilomètres de bouchons cumulés que nous attendons aujourd'hui. J'ai eu la chance hier de revoir deux membres de notre église, dans un magasin diététique. Et quelle ne fut pas ma surprise, peut-être la leur aussi, de voir, avant d'arriver, en passant par l'autoroute, à ce magasin, une file. Parce que les gens avaient commencé à anticiper les départs hier. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela aujourd'hui ? À la fois pour vous permettre de passer un bon sabbat, en restant chez vous aujourd'hui. Mais aussi parce que dans le texte que nous venons de lire, j'aimerais m'arrêter sur un seul mot, le chemin. Et d'ailleurs, j'aimerais, lorsque nous acceptons que ce chemin soit Christ, dans un premier temps, essayez de voir s'il s'agit d'un chemin ou d'une autoroute. Et vous avez compris que j'opterai plutôt pour le deuxième choix, la deuxième possibilité. Pourquoi ? Quand on réfléchit à Christ, on réfléchit d'abord à un mystère, le mystère de sa nature, de sa personne. Il est Dieu, en même temps il est homme, ce qui échappe quelque part à notre entendement. Nos esprits sont ainsi faits qu'ils ne peuvent accepter de telles acceptions. D'ailleurs, le problème demandera beaucoup de temps de réflexion à nos théologiens antiques, ceux des premières heures du christianisme, et il faudra deux conciles, Nicée et Constantinople, pour définir la nature et donc le mystère de Jésus-Christ. Il est 100% humain et 100% divin. D'autre part, l'excellence de sa nature. Puisqu'il est 100% divin, il est Dieu qui se fait homme. Et il n'y en a pas d'autre pareil. Lorsqu'on réfléchit à l'homme Jésus-Christ, il est un homme sans pareil. Jamais aucun autre homme, excepté lui, n'a réussi à ne jamais pécher. Et enfin, lorsqu'on considère son œuvre, Jésus apporte le salut à l'humanité. Il vient donner la possibilité à quiconque croit en lui, Jean 3, verset 16, de vivre éternellement. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, on peut imaginer qu'il ne faille pas comparer Jésus à un chemin, quand bien même lui-même le dit, mais plutôt à une autoroute. Quelle autoroute ? Quand on parle d'autoroute, de route, de chemin, on parle aussi de chemin à suivre. Bref, d'exemple. Je crois que quand Jésus vint sur terre, il vint surtout pour proposer différents exemples. Et permettez-moi à ce niveau-là une image empruntée au domaine de l'archéologie. Parlons d'un tel. Un tel est un chantier archéologique. Et lorsque les archéologues travaillent sur leur telle, ils vont fouiller, c'est-à-dire descendre en profondeur généralement, et ils vont déterminer un certain nombre de strates. Et généralement, chaque strate correspond à une époque, à un moment donné de l'histoire passée. Avec le Christ, c'est un peu la même chose. Quand on étudie le personnage, le Christ, c'est un peu la même chose. Quand on étudie le personnage, quand on visite ce chantier, eh bien, on distingue un certain nombre de strates qui, toutes correspondent à un exemple, dans un domaine bien particulier. Par exemple, c'est le cas de le dire, un chemin d'humanité, ce que nous appellerons l'humanisme de Jésus-Christ. Quand on considère la façon dont Christ s'est comporté en tant qu'homme sur terre, on peut, comme je le fais ici, retenir un certain nombre de caractéristiques. Respect de l'autre, non-violence, écoute, enseignement, soin, guérison, équilibre, tempérance. D'ailleurs, certains disent que Jésus était un nazir, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait fait vœu de ne jamais boire et de ne jamais se laisser aller à quelques excès que ce soit. Décision et engagement. Jésus était quelqu'un de volontaire, quelqu'un qui était capable de dire à celui qu'il jugeait déviant « ta voie n'est pas la bonne » et je pense particulièrement au docteur de la loi. Et parfois le vocabulaire que Jésus empruntera, utilisera, serait un vocabulaire jugé par nous aujourd'hui violent, déplacé, race de vipère. Jésus sera aussi capable d'engagement extrême, absolu. Et nous pensons à la croix. Enfin, l'humanité de Jésus est aussi l'humanité d'une spiritualité, jusque-là jamais égalée, jamais atteinte. D'ailleurs, vous remarquerez que dans toutes les religions, voire même philosophies, on reconnaît Jésus pour un grand maître spirituel. Christ est aussi un exemple de Dieu. Il vient en un temps particulier, et en un temps particulièrement marqué par le paganisme. Vous n'avez pas oublié que la situation géographique d'Israël en ce temps est une situation privilégiée. Israël est au carrefour géographique de ce temps. Deux grandes civilisations, au nord la Mésopotamie, au sud l'Égypte, entourent, encadre Israël. Et nous pouvons imaginer toutes les voies de passage entre ces deux pôles importants, passage qui s'effectue en Israël. Israël est donc un lieu depuis lequel on peut dire des choses au monde entier, du moins celui de ce temps. Et ce que le Christ vient dire en Israël en ce temps, c'est que jusque-là, tout ce que les hommes ont imaginé de Dieu est faux et païen. Ce qu'il faut penser de Dieu, c'est en regardant Jésus-Christ que nous l'obtiendrons. Jésus est un exemple de Dieu. Et cet exemple divin est valable pour le monde païen, mais aussi pour le monde de Jésus-Christ, le monde juif. Car en ce temps-là, le judaïsme a aussi dévié parce que trop de légalisme. Et nous pensons aux pharisiens. Et l'intention est bonne. Souvent, nous jetons la pierre aux pharisiens de ce temps. Mais si les pharisiens ont quadrillé la vie religieuse et sociale juive avec toutes ses règles, 613 je crois, c'est tout simplement pour éviter que ce peuple-là ne puisse plus ne pas respecter les règles et vivre ce qu'il en coûte d'un tel disrespect, les déportations. Jésus vient aussi montrer que Dieu n'est pas celui qui, pour bien faire, va quadriller au point de rendre impossible la vie. Jésus va dire que Dieu est essentiellement liberté, que Dieu est essentiellement tout ce que nous venons de dire lorsque nous avons donné Jésus en exemple d'humanité. Jésus est aussi un exemple politique. Si nous devions retenir une caractéristique de Jésus, souvent mentionnée dans le Nouveau Testament, c'est son autorité. Il parlait avec beaucoup de force et d'autorité, nous disent les textes. Qui dit autorité dit forcément aura. Qui dit aura dit pouvoir. Qui dit pouvoir dit quelque part politique, en tout cas pour ce que l'on en conçoit aujourd'hui. J'ai souvent été marqué lorsque j'observe Les campagnes politiques, nous en avons une présidentielle il n'y a pas longtemps. L'intérêt, c'est le moins qu'on ciel il n'y a pas longtemps. L'intérêt, c'est le moins qu'on puisse dire. L'attachement que ces hommes ont pour le pouvoir. D'ailleurs, on peut même se demander s'ils veulent véritablement servir le peuple, l'État, les citoyens vers lesquels ils s'adressent, ou bien si tout cela n'est finalement pas qu'un prétexte pour obtenir ce pouvoir. Et avec lui, l'autorité qui va avec. Jésus-Christ, de ce point de vue-là, est un exemple politique. Il vient nous dire que il a du pouvoir. Il va exercer des responsabilités, mais pas pour elle-même, pas pour le pouvoir, tout simplement pour servir. Toute la force, toute la grandeur, toute la gloire, toute l'autorité de Jésus-Christ n'est que placée au moyen du service qu'il vient rendre aux hommes et à son Père. Christ, enfin, est l'exemple d'un nouveau type d'homme. Et j'aimerais lire rapidement avec vous maintenant un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 51. C'est cette discussion que Jean a avec Nathanaël. Jésus va conclure cette discussion par ce verset 51 que nous lirons maintenant. Et il lui dit, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Je répète. Et il lui dit, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jésus ici se compare à l'échelle de Jacob. Il reprend cette image de l'Ancien Testament qui avait permis à Jacob de voir une échelle se dresser et des anges monter et descendre sur cette échelle. Et Jésus dit quelque chose de particulier, « Cette échelle, c'est moi. C'est moi l'homme que je suis. » Un homme dès lors très particulier, qui comme toute échelle, si elle veut être utile à quelque chose, doit avoir une extrémité sur terre, sur le sol, et une extrémité en l'air, sur le mur. Et certains vont voir dans l'adoption de cette image pour le Christ une explication de sa nature humaine. Le Christ est un homme, oui, pleinement, 100%, mais un homme particulier. Il est de nature comparable à la nôtre aujourd'hui. Il est le Fils de Marie. Il est potentiellement pécheur. La partie basse de l'échelle, la partie posée sur le sol. Mais il est surtout un homme spirituel, converti, ouvert à Dieu, établissant avec lui une relation spirituelle. La partie haute de l'échelle, la partie posée sur le mur, qui rend utile l'échelle qu'est Christ. Voilà aussi l'exemple d'homme particulier, d'homme spirituel, d'homme converti, que nous propose Jésus-Christ. Tout un tas de strates exceptionnelles qui font pour chacune d'entre elles de Christ un exemple sans pareil. Sans pareil. Pourquoi est-il important de regarder ce chemin, cette autoroute, nous reviendrons sur cette notion dans quelques instants plus exactement, qu'est Jésus-Christ? Parce que dans la vie, me semble-t-il, tout repose sur la notion d'exemple. Ce que nous sommes est en grande partie le produit d'un exemple ou de différents exemples que nous avons eus dans la vie. Encore une fois, prenons quelques exemples. Je me souviens du témoignage de ce pasteur qui avait adopté des enfants. Et l'un des garçons qui avait été adopté, vers l'âge de 13-14 ans, reproduisait les faits et gestes, les postures de ce pasteur, qui n'était biologiquement pas son père. Et la question de ce pasteur était de dire, mais pourquoi cet enfant qui n'est finalement pas le mien, biologiquement parlant, reproduit mes mimiques, mes attitudes au point qu'il laisse à penser à tout le monde qu'il est mon fils biologique. Cet enfant avait vu ce papa, pasteur, tel un exemple, telle une valeur absolue. Et il avait, et c'est là le point important, dupliqué cet exemple. Parce que dès lors que nous établissons dans notre vie ou conférons à quelqu'un dans notre vie une valeur d'exemple, nous allons forcément copier plus ou moins cet exemple. Prenons un autre domaine pour comprendre ce rapport entre l'exemplarité et la duplication. Un domaine technique, un photocopieur. Vous avez tous utilisé un photocopieur. Quand vous utilisez un photocopieur, vous prenez une feuille, un original comme celui-ci, vous le posez sur la vitre, vous refermez le couvercle, et puis là, vous allez appuyer sur un bouton. Et il va se passer quelque chose de mystérieux, une sorte de lumière va apparaître. On imagine un mouvement exercé par cette lumière, et résultat final, généralement au bas, la copie apparaît. Je me suis arrêté un peu sur le processus de fonctionnement de ces photocopieurs. La partie la plus importante, c'est lorsque la lumière apparaît, après que nous ayons appuyé sur le bouton. Il y a en fait tout un jeu photoélectrique qui se met en place à ce moment-là. Un jeu de miroir va renvoyer l'image de l'original sur une pièce métallique. Et parce que cette pièce métallique a été électrisée de façon particulière, en jetant de l'encre particulière, elle aussi, le tonnerre, sur cette pièce métallique, on pourra alors passer une feuille blanche et l'image via l'encre de l'original se reproduira sur la copie, ce que nous obtenons in fine. La copie, l'original, pardon, l'exemple, l'analyse photoélectrique en l'occurrence, et la copie parfaitement identique à l'original. Le Christ est un chemin de vie, un chemin de plusieurs vies, parce que, en bien des points, exemplaires pour chacun de nous. Dès lors que nous sommes au contact de ce personnage fascinant, de toutes ses strates, de toutes ses perfections, eh bien nous développons une fascination pour ce personnage, un peu comme celle de cet enfant pour son père adoptif. Et dès lors que la fascination est créée, eh bien l'observation fait suite, peut-être même précède-t-elle. Et nous entrons dans le process de la photocopie. Et j'aimerais maintenant en arriver à la notion d'autoroute, si vous me le permettez. Le Christ est un chemin, un exemple. Mais le Christ est aussi, pour chacun de nous, une autoroute, je m'explique. L'exemple que le Christ nous a donnés, ou les exemples que le Christ nous a donnés, sont des exemples qu'il nous revient d'appliquer. Et le mieux sera le mieux. Le plus sera le mieux. Aussi, réfléchissons maintenant à la nature, à la qualité, au pourtour, aux caractéristiques de cette autoroute que le Christ nous propose. Et pour essayer de répondre à toutes ces questions, essayons ensemble de récupérer les images d'une autoroute et de les appliquer à Jésus-Christ et au chemin de vie qu'il nous propose. Quand vous rentrez sur une autoroute, quelle est la première chose que vous faites ? On prend un ticket. On prend un ticket. Ce ticket, c'est quoi finalement ? C'est le permis d'entrée, c'est le passe-droit. Permettez-moi à ce niveau-là une comparaison avec la loi. L'autoroute que le Christ nous propose démarre aussi par le don d'un ticket. Je pense à la loi de Dieu. Je pense aux 10 commandements. D'ailleurs, vous remarquerez que Jésus a été assez attentif aux 10 commandements. Vous vous souvenez probablement de cette discussion entre lui et un scribe. « Seigneur, dis-nous quel est le plus grand, le plus important des commandements ?» Et la réponse de Jésus, « Écoute, Israël, ton Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » C'est le fameux chemin Israël. « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et tout ceci, nous en convenons tous, est un résumé de quoi ? Des 10 commandements, dont les 4 premiers termes indiquent le devoir de l'homme par rapport à Dieu, « Aime ton Dieu », et dont les 6 derniers termes indiquent le devoir de l'homme par rapport à l'homme, « Homme, aime ton prochain ». Le ticket que Jésus nous propose, pour bien commencer et pour avoir le droit d'évoluer sur cette autoroute, est un ticket de liberté. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Ça peut paraître curieux d'articuler la liberté avec la loi de Dieu. Et pourtant, les 4 premiers termes indiquent le devoir de l'homme par rapport à Dieu. Vous savez que certains penseurs, certains théologiens, certains philosophes, croyants probablement, imaginent que Dieu doit se supprimer lui-même pour que nous puissions advenir, être. Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent, Dieu est tout, Dieu est partout, à tel point qu'il en devient encombrant. Et dès lors que quelque chose autre que Dieu, pour qu'autre chose autre que Dieu puisse apparaître, il faut que Dieu décide de se supprimer de l'espace et du temps. Ce qui peut paraître acceptable, vu les définitions ou les attributs que nous conférons à Dieu. Dans la Bible notamment. Dès lors, s'approcher, puisque les 4 premiers commandements le demandent, de ce Dieu, c'est s'approcher d'un être qui, à mesure de notre avancée, recule, se supprime, nous laisse de l'espace pour que nous puissions être à notre tour. Quelle belle image pour indiquer la liberté, l'espace que nous trouvons lorsque nous allons vers Dieu. Dieu ne nous demande pas d'aller vers lui parce que nous le devons, parce qu'il le faut, parce qu'il l'aimerait et l'exigerait. Il nous demande d'aller vers lui parce qu'à mesure de notre avancée vers lui, il s'efface, il disparaît pour nous laisser la place, la liberté. Les 6 derniers commandements, le devoir de l'homme par rapport à l'homme, ne pas prendre sa femme, on a un petit peu parlé ce matin dans l'école du sabbat, ou ne pas prendre son homme, ne pas voler, ne pas prendre les richesses de l'autre. Honorer son père et sa mère, tous ces commandements indiquent en fait la dépendance que nous avons par rapport à l'autre, par rapport à ce qui lui est cher. Honore ton père et ta mère. Peut-être qu'honorer son père et sa mère, c'est à un moment donné assumer son autonomie, son statut d'adulte, et s'assumer pleinement. Si je regarde sous un certain angle chacun des termes de ces 6 derniers commandements, je m'aperçois qu'ils me disent tous, à travers ce qu'ils dénoncent, tu n'es pas libre. Lorsque tu désires la femme de l'autre, lorsque tu désires les convoitises, les richesses, pardon, de l'autre, tu ne manifestes finalement que ta dépendance par rapport à l'autre. Le simple fait que tu ne puisses, si tu ne prends pas ce qui est à l'autre, être heureux, tu manifestes la réduction de ta liberté. Tu manifestes la limite de ton indépendance. Tu manifestes la limite de ton indépendance, de ton autonomie. Le ticket, les 10 lois que Jésus nous donne pour évoluer sur cette autoroute, la sienne, est un ticket de liberté. D'ailleurs, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Dimanche dernier, oui. J'ai souscrit à un passe-liberté. Que c'est bien un passe-liberté. On vous donne une petite carte magnétique. Vous la placez grâce à un sticker sur votre pare-brise. Et là, lorsque vous arrivez dans les péages, plus de cartes, plus d'argent, carte bancaire, j'entends. Les barrières s'ouvrent et vous passez. Le passe, liberté. Ça vous donne même l'impression que vous ne payez plus l'autoroute. Mais non, vous recevez ça. Parce qu'au préalable, ils ont pris votre RIB et ils vont vous facturer tout cela. L'autoroute que nous propose Jésus-Christ est essentiellement une autoroute de liberté, dont le ticket d'entrée n'est finalement que le rappel de cette liberté à travers les termes de ce rappel, de ce ticket, pardon. Mais sur une autoroute, il n'y a pas qu'un péage d'entrée. Il y a aussi des péages tout court. Et c'est vrai que si le passe-liberté donne l'illusion de ne plus payer l'autoroute, le trois quarts des utilisateurs de l'autoroute ont encore leur carte de crédit ou même parfois leur monnaie qu'ils placent dans un réceptacle de monnaie. Et là aussi, si nous revenons à l'autoroute qu'est Christ, le risque d'une mauvaise compréhension du péage, Dieu n'est pas celui qui, à un moment donné, vient nous demander des comptes. Celui qui, à un moment donné, vient nous faire payer la note. Dieu est plutôt celui qui, à travers tout cela, à travers ce que nous devons payer ou devons faire, vient simplement se rappeler à notre mémoire. J'aime imaginer tous ces péages comme des temps importants de la vie du croyant. Lorsqu'on a pris ce ticket, lorsqu'on a compris qui était Jésus-Christ, lorsque l'on a sa loi en nous, cette loi de liberté, nous avançons sur cette autoroute. Mais il faut des balises, il faut des repères, il faut des temps particuliers pour se souvenir de la nature, des caractéristiques de cette autoroute de vie sur laquelle nous nous trouvons. Et je vois là l'utilité de ces péages. Ces péages peuvent correspondre à des fêtes religieuses, à des temps importants de la vie du croyant, un baptême, une sainte cène, un élément particulier qui rappelle de qui nous dépendons, nous payons. Nous payons non pas parce qu'il a besoin de notre argent, mais tout simplement parce qu'à travers ce don, nous nous rappelons à qui nous donnons, de qui nous venons, pour qui nous roulons. Je regrette que dans l'Église adventiste, il n'y ait pas de calendrier liturgique. Vous remarquerez que dans toutes les grandes religions chrétiennes et religions tout court, il y a des calendriers liturgiques. C'est-à-dire l'année ecclésiale balisée de temps importants, particulièrement de fêtes. Noël, Pâques, Pentecôte pour les chrétiens, et j'en passe des meilleurs. Le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, régulait sa vie religieuse au rythme des temps des saisons, plus particulièrement des fêtes religieuses, qui s'appelaient sabbats, des sabbats particuliers. Ces fêtes religieuses, ces moments importants de la vie du croyant, correspondent à ces péages de nos autoroutes, du moins aux péages de l'autoroute de Jésus-Christ. À nous, lorsque il se présente dans notre Église, à chacun de nous, de les regarder non pas comme des devoirs desquels il nous faut nous acquitter, mais des étincelles, des artefacts de grâce que Dieu nous donne pour nous rappeler quel est le chemin que nous poursuivons. Qu'est-ce qu'il y a encore sur une autoroute que vous appréciez ? Les aires de repos. Les aires de repos sont de plus en plus belles, déjà d'une part, et surtout confortables. Je me souviens de ces fauteuils relaxants, parce que massants, sur lesquels vous pouvez vous asseoir, moyennant finance bien sûr, 1 euro je crois. Et vous pouvez ainsi passer une bonne demi-heure à vous faire masser électriquement le dos, les jambes. Bref, vous vous reposez. Les aires de repos sont aujourd'hui utiles à bien des services. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez acheter. Il y a de véritables supermarchés maintenant sur les aires de repos. Vous pouvez aussi, sur les aires de repos, puisqu'il y en a deux types, le type naturel où il n'y a qu'une nature à contempler et des endroits pour se soulager, et d'autres genres d'aires de repos, le type commercial, celles qui sont consacrées au gasoil et à bien d'autres choses. Quoi qu'il en soit, ces aires de repos sont des moments qui permettent de s'arrêter, de se relaxer, de recharger les batteries, de faire le point. À quoi pourrait-elle correspondre dans la vie du croyant sur l'autoroute de Jésus-Christ ? Eh bien, je le crois à ce que nous sommes en train de vivre en cet instant, au sabbat. D'ailleurs, l'analogie est assez facile. Aire de repos, sabbat, repos. Nous avons besoin du sabbat pour nous reposer, tout simplement, pour pouvoir cesser avec les activités non seulement du quotidien, mais fatigantes. Je me souviens, lorsque j'étais pasteur à Angers et que je faisais le trajet Angers-Le Mans, il y avait une aire de repos que j'appréciais tout particulièrement lorsque j'arrivais vers Le Mans. Pourquoi ? Parce que lorsque je m'arrêtais là et que je regardais, il y avait un paysage extraordinaire. C'était une façon de se reposer. Mais à mesure que je regardais ce paysage extraordinaire, je m'aperçois que mes pensées allaient elles aussi de l'avant. Et le trois quarts du temps, lorsque je me trouvais en cet endroit à regarder ce paysage extraordinaire, j'analysais en fait différentes situations de vie. Ce que j'allais faire dans la journée,
la prédication que j'allais présenter le samedi qui suivrait. Bref, cette contemplation m'amenait à une analyse, à un bilan. Voilà pourquoi, je le crois, les aires de repos correspondent à nos sabbats, car il y a dans nos sabbats d'aujourd'hui les mêmes fonctions, les mêmes avantages, les mêmes intérêts. Nous nous réunissons, nous nous arrêtons pour nous reposer, mais à travers ce repos pour réfléchir, pour analyser, pour faire le point. Si le point est bon, nous continuons. S'il n'est pas bon, nous rectifions. D'ailleurs, n'est-ce pas là ce que Dieu fait lui-même? Lorsqu'après les 6 jours de la création, il se repose, il contemple. Il voit que tout ce qu'il avait fait était parfait. Il jouit de cette contemplation par une relation privilégiée avec l'homme. Dieu a vu pendant le sabbat que tout ce qu'il avait fait était bon et il en a profité. Et on peut imaginer que si Dieu avait vu au moment de cette contemplation qu'il restait quelque chose à parfaire, il l'aurait transformé, arrangé. Enfin, 2 derniers éléments importants, caractéristiques de nos autoroutes. La gendarmerie et les radars. J'avoue que je ne suis pas trop favorable dans le regard que je porte vers ces 2 éléments habituellement. Surtout lorsqu'on vient à vous retirer des points ô combien précieux. Mais à bien y regarder, il s'agit là de véritables bénédictions. Il nous est arrivé avec Elisabeth et quelques amis de vivre un moment vraiment difficile pendant les vacances. Nous étions sortis avec un couple d'amis à Agde, dans l'Hérault, et lorsque nous revenions de notre sortie, les voitures étaient arrêtées, c'est pas normal, il était minuit passé. Et à un moment donné, nous passons finalement au pas. Et là, nous voyons une dame étendue sur le sol. Un accident avait eu lieu, de mort. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans le détail, même si je le connais. Mais j'en reviens à mes péages et mes gendarmes, à mes radars et mes gendarmes, pardon. Ils sont là pour réguler le trafic. Ils sont là à travers, des fois, la sanction pour nous amener à la raison, à la régulation, à l'utilisation juste de ce chemin de vie que le Christ nous a donné. Lorsque je pense à ces gendarmes et ces radars, je pense à tout ce monde spirituel qui existe sur l'autoroute de Jésus-Christ, à ces anges spirituels qui existent sur l'autoroute de Jésus-Christ, à ces anges qui nous observent, à ce Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous ont probablement bien des fois permis d'éviter le chauffard fou, l'ange du mal ou peut-être leur chef, qui, si nous étions livrés à lui seul, nous aurait déjà et depuis longtemps sortis de cette autoroute de Jésus-Christ. Et enfin, et j'en termine, qu'est-ce qui ponctue une autoroute? Toujours. Une arrivée, une sortie d'autoroute. Une sortie d'autoroute. Vous savez, quand vous avez bien roulé, vous descendez dans le sud. Vous avez roulé 6, 7 heures. Vous ne voulez même plus vous arrêter sur les aires de repos parce qu'il vous tarde d'arriver. Et là, vous voyez enfin le panneau que vous attendez avec la sortie bien indiquée. Vous mettez le clignotant à droite et vous sortez. Et vous êtes arrivé. Il y a 2 risques. À cause de la lassitude, de la fatigue, soit sortir après, ça m'est déjà arrivé. Soit parce qu'on ne connaît pas bien le chemin, on a peur de se perdre, sortir avant. Ça m'est aussi arrivé. À quoi pourrait correspondre la sortie finale sur l'autoroute de Jésus-Christ? À son retour, c'est évident. À nous à rouler sur cette route de la liberté, À nous à utiliser les aires de repos, à bien comprendre l'utilité des gendarmes et des radars, à payer aux portes de péage comme il se doit, sans imaginer Dieu pour ce qu'il n'est pas, et ainsi à nous diriger, à coup sûr, vers la sortie, le retour du Christ. Alors ne partez pas sur les routes aujourd'hui, réfléchissez plutôt aux autoroutes, à nos routes, à nos chemins, à celui que Jésus-Christ trace dans notre vie au quotidien. Amen.